Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, bonjour, c'est l'expression du matin à la télé, à la radio, vous l'avez forcément entendu dans la bouche d'Hélène Zellani, à l'instant sur tous les tons on entend à l'identique, ça sonne bien, à l'identique, on parle de la flèche là, la flèche de Notre-Dame érigée par Eugène Viollet-le-Duc au 19e, les flammes ont eu raison d'elle, elle reviendra à l'identique. Depuis l'incendie, l'eau a coulé sous les ponts de Paris et un foutu virus est venu vampiriser les esprits dimanche, on entendra à nouveau quasi à l'identique, un son porté disparu. 19h, un match de foot en France, amical certes, mais avec public. Ça se passera au Havre, la ville dont le maire vient de revenir. Le Havre face au PSG, vous vous souvenez du PSG ? Neymar, Mbappé, 5000 personnes sont dans l'enceinte du stade Océane. Les places sont parties en 37 minutes. Bein Sport diffuse la partie. Le foot revit un peu quasi à l'identique, enfin avec du gel, des masques et un siège d'écart. Mais c'est déjà ça. Au menu de Culture Média ce matin, Carla Bruni revient avec son petit quelque chose. Nouveau titre inédit depuis 7 ans. On écoutera quelque chose, Carla Bruni, en studio dès 10h. L'info média du jour, 13h15 le samedi, présente demain sur France 2 un document exclusif sur l'opération Barkhane, toujours en cours au Sahel. La grand reporter Dorothée Oliéric a obtenu des images jusque-là classées secret défense. Elle vient nous raconter. Et puis, pas de vacances pour Alex Good. L'animateur poursuit tout l'été ses programmes éducatifs Lumni sur France Télé. Il est notre invité. Une heure média, une heure culture. Ça commence maintenant. Bonjour Martin Cangelosi.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Ça va, vous toussez beaucoup, je trouve.
Vous l'avez remarqué ?
Ouais.
Des allergies, je vous l'ai dit, mais
bien
vous n'y
sûr.
Croyez pas.
Alors, place au journal des médias, Martin, au sommaire ce matin.
Arthur à la conquête du monde, un président de France Télé, mais avec combien de chaînes, on ne sait pas vraiment. Et la sexagénaire Brigitte Lahaye qui jouit toujours.
Et d'abord. Les audiences.
Je sais que chaque jour vous les attendez avec impatience.
Ah oui.
TF1 première hier avec Taxi 4, le film Taxi 4, 3,9 millions de téléspectateurs. Juste derrière, gros carton pour France 3 et son téléfilm Disparu, 3 millions de téléspectateurs devant la 3. Et en fin du podium, France 2 avec son divertissement de Michel Drucker, le grand show des duos, 1,9 million de Français devant France 2.
Culture Média. Et l'on commence ce journal des médias avec l'animateur de TF1. Arthur, qui vient de faire un gros coup.
Arthur, c'est un animateur, mais c'est surtout Pascal, un producteur. Il vient de racheter Sony Pictures Télévision France. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais non. Sony Pictures Télévision, eh bien, ils sont partout à la télé, Pascal. Ce sont eux qui font Qui veut gagner des millions sur TF1, Les Amours sur France 2 ou Qui veut être mon associé sur M6. Arthur devient le patron de toutes ces marques et se présente désormais comme le premier producteur indépendant de France. Alors si Sony International lâche sa filiale française à l'ex-présentateur des enfants de la télé, elle prend en contrepartie 20% de la boîte d'Arthur, échange de bons procédés en quelque sorte, et si bien que toutes les émissions fabriquées par la star de TF1 vont se vendre à l'étranger. On pourrait ainsi voir Vendredi Tout est permis, Les Anges de la télé-réalité ou encore Star sous hypnose, arriver aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni.
Et ça, ce sera un beau cadeau. On continue avec les candidatures pour la présidence de France Télé. La date limite pour déposer son dossier, eh bien, c'est aujourd'hui.
Delphine Ernotte, l'actuelle présidente, veut rempiler. Le CSA lui a d'ailleurs adressé une très bonne note dans son dernier rapport. Mais Christophe Baldelli est en embuscade. C'est l'ex-patron de RTL et ex-directeur général de France 2. Lui aussi a déposé sa candidature et ça s'annonce très serré entre les deux. Selon la plupart des journaux de ce matin, nom du nouveau président de France Télé, fin juillet.
Un nouveau patron, ou la même patronne, qui ne saura pas combien de chaînes il ou elle devra présider.
Et Roselyne Bachelot, la nouvelle ministre de la Culture, promet que le couperet va tomber d'ici quelques jours pour France O et pour France 4. Les deux chaînes du service public doivent fermer dans exactement 30 jours, sauf que le gouvernement n'a toujours pas signé leur arrêt de mort. Ou alors pour France O, soyons très honnêtes, il n'y a plus vraiment d'espoir, laisse entendre la ministre chez nos confrères de Radio France. Mais pour le Canal 14, la ministre parle de travail exceptionnel, de travail remarquable depuis le confinement et depuis qu'Alex Good fait l'école à domicile avec ses émissions. France 4 pourrait sauver sa tête. Peut-être qu'Alex Good, votre invité Pascal, dans quelques minutes, en sait un peu plus.
Bah oui, on lui demandera forcément. On enchaîne avec le seum de Jean-Jacques Bourdin qui n'hésite pas à tacler son patron à l'antenne.
Le seum, c'est vous qui l'avez dit.
Non, c'est pas bien.
C'était pas écrit, mais on peut dire le seum.
Excusez-moi.
L'homme livre son éprière à Patrick Drahi, président d'Altis, propriétaire de RMC et de BFM. Alors on le rappelle, des centaines de journalistes et salariés du groupe pourraient être prochainement mis à la porte. Pendant son interview hier matin sur BFM TV, Jean-Jacques Bourdin en a profité pour dégainer une petite flèche à l'encontre de son big boss. Tendez l'oreille, petit uppercut au détour d'une question posée au patron du MEDEF. La question porte sur le patrimoine des plus grosses fortunes de France.
Patrick Drahi, ici, qui est à plus 39% par rapport à 2019, qui est à 12,5 milliards et qui parallèlement supprime des postes. Est-ce que moralement, c'est acceptable ?
Alors Jean-Jacques Bourdin, qui il y a quelques minutes a fait ses adieux à l'antenne d'RMC, c'était sa dernière matinale après 19 ans.
Et Anne Niva, sa femme, a tweeté tout son amour avec plein d'émoticônes love. On termine avec Brigitte Lahaye.
En parlant de love.
Oui, oui, bah oui, qui se remet nue. NUE, hein. Non, parce qu'il écrit NU. Ça ne s'entend pas, mais il écrit NU.
On fait de la radio.
Oui, enfin. Brigitte Lahaye, nue devant la caméra pour Canal+.
Nue, NU. La dernière fois, c'était il y a 40 ans. Brigitte Lahaye, cette fois, devant les caméras d'Olympe de G. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Olympe de G. Elle est très connue dans le milieu parce qu'elle réalise des films féministes. Voilà d'ailleurs ce qui a convaincu l'actrice de se déshabiller à nouveau. Dans la dernière fois, c'est le nom du long métrage. Une femme qui se sait condamnée par la maladie planifie sa dernière nuit d'amour. Alors c'est un film pornographique, certes, mais l'intimité de Brigitte Lahaye est filmée de manière détournée, avec érotisme, comprenez, sans gros plan.
Je suis mise en valeur dans ma vérité aujourd'hui, c'est-à-dire dans une femme de plus de 60 ans qui continue à être dans le désir. Il y a 80% de femmes pratiquement qui n'aiment pas leur corps. Alors vous imaginez en plus un corps qui vieillit. Il y a un peu une dictature de la beauté, alors que la sexualité, ça n'a rien à voir avec la beauté. Ça a à voir avec la sensualité, avec le charme, avec le désir. Qui, à part moi, pouvait le faire de cette manière aussi intense ?
On a demandé aussi Pascal à cette star de l'âge d'or du cinéma X, à l'affiche quand même d'une centaine de films dans les années 70 et 80, une centaine de films pornographiques. On l'a demandé si elle avait eu le tract à l'idée, pourrait-on dire, de remonter sur scène.
C'est comme la bicyclette, ça se perd pas. Je ne savais pas comment j'allais réagir pour la première scène où j'étais censée jouir. Et bah, franchement, ça a été... Oui, je me suis sentie tout de suite à l'aise et je me suis lâchée. Et peut-être même mieux encore qu'avant. Bah parce que j'ai plus peur.
Alors Pascal, on lui a demandé aussi à Brigitte Lahaye si ça lui avait donné envie de recommencer. Voilà ce qu'elle nous a répondu. Je ne vais pas faire une Bachelot. Vous avez compris ?
Non.
Ça veut dire, je ne vais pas dire que c'est fini. Par Roselyne Bachelot avait dit qu'elle ne ferait plus de politique. Elle est revenue.
Ah,
Brigitte Lahaye donc ne veut pas refaire de Bachelot et elle pourrait se lancer, tenter par un nouveau scénario s'il était intéressant. Voilà ce qu'elle nous dit parce que c'est comme la bicyclette.
Oui, c'est comme la bicyclette, ça ne se perd pas. Phrase déjà culte grâce à vous et sur laquelle vous partez en week-end, Martin. Allez-y avec une telle déclaration, vous avez bien mérité, franchement. À lundi.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Parce qu'il contient des images exclusives jusque-là classées secret défense, le reportage que diffusera demain le magazine de France de 13h15 le samedi de Laurent Delahousse est vraiment à regarder, ce que je n'ai pas pu faire car il est encore au montage. Un reportage qui s'appelle « Nuit d'enfer » et que vous signez, Dorothée Oliéric, bonjour.
Bonjour Pascal.
Merci d'être là, vous êtes grand reporter à France 2, ou reporter de guerre, comment dites-vous ? Grand reporter ?
Non, grand reporter.
Vous faites pas que la guerre quand même.
Non.
Ce serait désespérant. Alors, pour bien comprendre la portée de ce reportage qui sera diffusé demain à 13h15, on va commencer par resituer. Ce ne sera pas du luxe, nous sommes au Sahel. Et voilà 6 ans maintenant qu'est en cours l'opération Barkhane, lancée donc sous François Hollande. L'objectif de cette opération, lutter contre les djihadistes,
les djihadistes, voilà. Ça a commencé en 2013, en fait, l'opération Serval, quand le président malien fait appel à la France pour qu'il l'aide à faire partir les djihadistes. Puis ça devient l'opération Barkhane en 2014. Et donc, 6 ans, 7 ans après,
ouais, c'est une affaire
ils sont toujours là-bas.
C'est une affaire très compliquée, parce que quoi ? Parce que la zone de guerre est vaste, que le territoire est piégeux ?
Bah, le Barkhane, c'est 5 pays, Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanie, J'en oublie un sûrement. Et ces 5000 hommes qui étaient dans un espace grand comme 10 fois la France.
Ah, 10 fois la France, ouais.
Donc c'est effectivement difficile de ratisser des zones comme ça. Et aujourd'hui, ils ont un peu changé de méthode en essayant un petit peu de cibler des zones plus, des espaces plus restreints. Et notamment, ils interviennent aujourd'hui dans ce qu'on appelle la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, où l'État islamique au Grand Sahara est en train d'essayer de recréer un sanctuaire terroriste.
Combien de soldats à peu près pour cette opération Barkhane
au total,
côté français?
C'est 5100 soldats français et il y en a à peu près la moitié stationnés en permanence à Gao, au Mali. Et sur des opérations comme ça, ils engagent effectivement des milliers d'hommes.
Avec évidemment des victoires et aussi des revers toutes ces années.
Avec des victoires, des revers. C'est toujours un peu dur d'avoir des bilans. Hein. On nous dit, voilà, 30 djihadistes ont été tués. On ne sait jamais très bien dans quelles circonstances, comment. Et justement, notre documentaire va montrer un petit peu comment ça se fait.
Alors justement, qu'avez-vous voulu faire? Quelle était votre intention pour ce documentaire qu'on va raconter dans un instant, Dorothée Oliéric? Que vouliez-vous montrer?
Et en fait, on m'a raconté une histoire.
Ah, voilà.
Et l'histoire, je l'ai trouvée absolument géniale. On m'a dit, il y a eu une nuit d'enfer avec des bombardements incroyables toute la nuit. Il y a eu une trentaine de djihadistes tués.
Alors, on s'en souvient, hein, pour ceux qui ont un peu suivi, c'était il y a à peu près un peu plus d'un an.
Il y a un peu plus d'un an. Mais c'est pas le crash où il y a eu 13 morts.
Ah, c'est
français,
pas ça,
c'est pas
nuit,
l'accident.
C'est pas la nuit d'enfer, d'accord.
C'est une autre nuit d'enfer, quelques mois avant, dont l'armée a très très peu communiqué sur cette affaire. Pourquoi? Parce que justement, au petit matin, un hélicoptère français est pris à partie par un ennemi et se crache. Donc c'est jamais une victoire pour les militaires français de dire qu'ils ont perdu un hélicoptère. Les personnes à bord, les pilotes et le tireur d'élite, sont indemnes. Et il va y avoir un sauvetage, mais digne d'un film d'Hollywood. Incroyable! Un autre hélicoptère va se poser, les blessés vont ramper sur le sol, un va les tirer, les hisser sur les roues du Tigre, sur les roues d'un hélicoptère. Et ils vont partir accrochés à la machine à l'extérieur, sous le feu ennemi. Enfin, une histoire digne d'un scénario d'Hollywood.
Ouais, donc vous dites que cette histoire, on l'ignorait. Vous en avez entendu parler.
Oui.
Vous allez nous raconter comment on enquête là-dessus, évidemment, c'est ça qui est étonnant. Mais vous nous avez quand même apporté un petit extrait, hein, puisqu'on fait de la radio, c'est bien d'entendre un peu ce qui se passe. Récit des militaires français dont l'hélicoptère est pris pour cible nuit d'enfer demain au 13h15 samedi, je l'ai dit à l'envers, sur France 2.
Je commence à entendre des impacts sur la machine. C'était quelque chose de très intense. On est touché.
Les voyants d'alarme à bord s'allument. Je perds de la puissance, on n'est plus en état de vol.
Je m'accroche au siège en me serrant le plus fort possible, en me disant de toute manière ça va être l'impact assuré.
Je me dis, non pas ça quoi, c'est pas possible, pas nous.
Vous vous dites que vous allez mourir?
Oui, clairement.
Tous mourir?
Oui.
Alors on précise tout de suite, Dorothée Oliéric, et tant mieux que ça n'a pas été le cas, hein, tout le monde a été sauf. Qu'est-ce qu'il y a d'hollywoodien, comme vous dites, dans cet épisode?
C'est la façon dont ils vont réussir à être sauvés. Imaginez, ils se crachent à 500 mètres de l'ennemi, l'hélicoptère prend feu. Miraculeusement, ils sont grièvement blessés, mais ils arrivent à sortir de la machine. Et là, ils sont au milieu de nulle part. Ils pensent que dans les minutes qui viennent, l'ennemi va arriver pour les abattre à bout portant. Ils pensent même pas être fait prisonniers, parce que tout ça arrive après une nuit de combat acharné. Et un tigre se pose comme un sauveur. Le tigre, c'est un hélicoptère d'attaque où il y a seulement deux places. C'est un peu comme un avion de chasse pour un hélicoptère.
Donc un tigre de l'armée française.
De l'armée française, un tigre ami, se pose à 100 mètres d'eux. Donc il rampe sur le sable pour atteindre l'hélicoptère. Et là, les deux pilotes ne peuvent pas sortir, c'est rotor tournant. Et là, il y en a un qui a l'idée de l'accrocher sur une roue, sur une deuxième roue et dehors. Et le tigre part sous le feu ennemi, accroché avec trois blessés. On saura après qu'ils ont des fractures de la colonne vertébrale, qui sont déjà miraculées. Ils n'ont pas de sangles, parce que normalement, cette procédure existe du point de vue théorique, mais elle n'est ni appliquée à l'entraînement. et elle n'a jamais été utilisée sur un terrain de guerre.
Donc c'est quelque chose. Première.
C'est une première.
Par la force des choses, par la force des événements.
Voilà, parce que l'équipage de l'hélicoptère a le courage de se poser, parce qu'un hélicoptère au sol, il n'y a rien de plus vulnérable. Donc il faut y aller. Hein. Franchement, il faut y aller avec, quand on voit les combats qu'il y a eu avant. Et puis il faut aussi qu'il y ait un gars pour soulever ses copains, parce qu'il ne part pas tout seul. Les autres, ils ne peuvent pas. Les jambes ne bougent plus. Et ils s'accrochent et ils partent en l'air. Et c'est peut-être là où ils ont eu plus peur, même plus peur que pendant le crash. Donc et la façon dont ils racontent est extrêmement émouvante.
Oui,
extrêmement,
parce que, vous avez les témoignages des
de tous les protagonistes, voilà. Je vois les pilotes. Et ce sont des gens avec d'une humilité, d'une modestie, d'une pudeur. C'est pas facile de faire parler des militaires, mais on a pris beaucoup, beaucoup de temps pour le 13h15. On se donne du temps, on les met en confiance et ben, j'espère qu'ils vont se reconnaître dans cette histoire parce que c'est leur histoire.
Alors pour l'instant, ça s'annonce comme un beau reportage, Dorothée Oliéric, mais vous allez nous raconter pourquoi il est davantage que ça à cause de ces fameuses images, mais n'anticipons pas. On revient, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
La grande reporter de France 2, Dorothée Oliéric, signe un reportage document qui sera diffusé demain dans l'émission 13h15 le samedi sur France 2. Donc, le récit du sauvetage de soldats français dans l'hélicoptère avait été abattu par des djihadistes en plein Sahel. Et là où l'exception pointe son nom, Dorothée, c'est qu'on va voir pour la première fois des images qui étaient encore récemment classées secret défense. Hein, c'est toujours le cas avec les militaires. Comment avez-vous fait ça ?
Alors, elles ont été déclassifiées les dernières il y a 3-4 jours. On est en train de finir le montage, c'est pour ça que vous ne pouvez pas le voir.
Et pourquoi elles sont déclassifiées
alors,
à un moment
donné ? Alors, c'est une opération. Il faut savoir, quand il y a un crash d'un hélicoptère français, c'est un échec pour les militaires français. Donc, ils n'ont pas envie de le mettre en avant, d'une part. Et ils n'ont pas envie non plus que cette image de la gazelle en flammes sur le terrain soit utilisée par l'ennemi dans des clips de propagande. Donc, c'est quelque chose d'une opération. Il y a beaucoup de combats. Il y a des images, effectivement, où ils tuent des djihadistes. Alors, ils ont essayé d'édulcorer le matériel qu'ils m'ont donné, et moi j'ai demandé plus, et j'ai bataillé jusqu'au dernier moment pour avoir plus d'images. Ils m'ont donné beaucoup
ouais.
de choses.
Juste
le moment. Et je les ai vus. Voilà, il y a des images où on voit vraiment le djihadiste qui meurt en direct sous les bombes. Ça, cette image-là, ils m'ont pas donné. Ils mettent des tirs, mais les tirs à côté, les tirs des warning shots, des choses comme ça. Donc tout ça, la gazelle qui brûle, ils l'ont flouté légèrement, mais on voit le panache de fumée. Donc finalement, on voit tout.
Ouais, juste pour comprendre, qui décide de la déclassification des images ? Ça remonte à Florence Parly ou au ministère de...
Alors moi, mon interlocuteur est le colonel Barbry de l'État-Major des armées, qui gère tout ce qui est de la communication de l'armée avec les journalistes. Quand on part, nous, au Mali ou ailleurs sur un terrain de guerre, ça passe par lui, pour pouvoir être embedded avec des militaires français. Oui, je pense que ça remonte assez haut, surtout pour ce type d'image.
Donc là, ça devient, au bout d'un moment, une négociation
Une bataille.
Journalisme versus militaire, c'est ça ?
Oui, non, une vraie bataille. Alors évidemment, chacun est gagnant. Sinon, il n'aurait pas d'intérêt à déclassifier ce matériel.
Donc, quel est leur intérêt ?
Leur intérêt, c'est que c'est une histoire héroïque. C'est que c'est une belle histoire. C'est une histoire militaire, mais c'est une histoire d'homme. Donc oui, certes, on voit aussi les militaires qui tuent, la gazelle qui flambe, mais on voit des gens remarquables. Un tireur d'élite, Max. Incroyable. Deux pilotes qui sont des modèles de courage, de bravoure, ce que vous voulez, tout en, je vous dis, avec une humilité, une pudeur, que moi j'ai adoré les rencontrer, qui me racontent cette histoire. C'est pas le monde de la gloriole. Donc effectivement, au bout du compte, je pense qu'il y a une belle image pour l'armée, même si je raconte une histoire de guerre, une histoire de crash, une histoire qui n'est pas si positive que ça pour l'armée. Donc ça, c'est un peu gagnant-gagnant et ça a été une bataille. Je pense que chacun se dit qu'il l'a gagnée.
Oui, c'est ça la guerre. L'armée a gardé le contrôle, c'est-à-dire qu'ils sont là au montage.
Non.
Ils visionnent avant diffusion.
Non.
Ah, mais comment avez-vous fait ?
J'ai bataillé, sérieusement. Non, il n'y a pas de visionnage. La seule fois où j'ai laissé l'armée visionner mon reportage sur des militaires, c'est quand j'ai tourné avec les forces spéciales françaises en Irak en 2017. Et les forces spéciales, c'est très, très particulier. Il y a des floutages, il y a des informations. Là, si je ne le montre pas, je vais en prison directement. Donc, je n'ai pas négocié longtemps. C'est évident que ça se fait avec les forces spéciales. Là, il y a un rapport de confiance aussi. Ça fait longtemps que je suis les militaires français sur le terrain. J'ai un interlocuteur de l'aviation légère de l'armée de terre qui est venue avec moi un peu sur le tournage, mais plus pour m'aider. Il n'y a eu aucun contrôle, aucune censure.
Mais vous vous sentez une responsabilité particulière sur ce type de reportage assez exceptionnel et image par image, il y a la responsabilité qui pèse sur vos épaules dans ces cas-là ?
Pas vraiment, parce que j'ai essayé justement d'aller au-delà des interviews qu'on a généralement quand on a peu de temps avec les militaires sur un terrain de guerre. Vous savez, ils ont souvent des éléments de langage et qu'ils répètent un petit peu comme
quand
quelque chose
pas,
appris.
Quand c'est pas le silence. Hein,
quand c'est pas le silence, ouais. Voilà. C'est des éléments de langage. Et c'est ce qu'il y a de pire pour nous, parce qu'il n'y a rien qui sort. Moi, j'ai voulu aller les toucher, les chercher au cœur. Et c'est pour ça qu'on a fait des interviews qui durent une heure, deux heures. Ils pensaient avoir 10 minutes et avoir quelques éléments de langage. Et ils ont fini par raconter leur histoire. Et vous n'avez plus l'impression d'écouter des militaires parler, mais juste des hommes. Ça pourrait être votre frère, votre mari. Et des gars qui ont un sacré courage quand même.
Comment vont-ils ?
Eh bien, ils vont bien. C'est aussi pour ça, je pense, que j'ai pu raconter l'histoire. S'il y avait eu des morts, je pense que ça aurait été très, très différent. C'est des miraculés. Les trois qui sont crachés étaient grièvement blessés. Ils vont bien et ils ont revolé pour la première fois tous les deux. Et ils vont revoler le 14 juillet. Je serai avec eux à la base aérienne de Creil. Ils vont revoler Kevin, Adrien et Max, le tireur d'élite. Les trois qui se sont crashés pour la première fois, les trois ensemble. Donc un an après ce crash, le 14 juillet, je serai avec eux. Il faudra regarder France 2 pour regarder cette émission bien spéciale à retrouver nos gars. Non, vraiment, ça va être super.
Parce que le 14 juillet, cette année, il y a un défilé aérien, mais quand même, mais pas terrestre, évidemment. Est-ce que les zones de guerre vous intéressent toujours autant, Dorothée Oliéric? Visiblement, oui, mais d'une manière générale.
Écoutez, je sais pas. J'ai du mal à expliquer. C'est comme une évidence. Quand il se passe quelque chose comme ça, j'ai un besoin viscéral d'y être. Pour voir, pour raconter, pour le vivre et le raconter, pour témoigner. Et les années passent et j'ai toujours la même passion, que je sois en Irak, au Mali, que je sois en Ukraine, dans le Donbass, en Afghanistan. Je suis allée il n'y a pas longtemps pour les élections. Et je me suis aperçue que la première fois que j'y étais, c'était en 96, à l'arrivée des talibans. Et il s'est passé 20 années et quelques, et j'ai la même passion pour ces gens. C'est une histoire vraiment humaine à chaque fois. Hein. Il y a ce qu'on raconte, il y a le reportage que les téléspectateurs voient, il y a ce que je vis, et il y a une partie qui n'est pas dans les sujets. Et je peux vous dire, c'est une force qui fait que c'est un bonheur, ce métier, quoi.
Et le reste paraît fade, peut-être.
Non, j'adore l'équilibre des deux. Mais vraiment pas du tout.
Et une dernière chose, rapidement, quand vous avez entendu Emmanuel Macron qualifier de guerre, hein, il a bien dit ça plusieurs fois, la lutte contre le coronavirus, ça vous a fait bizarre ?
Oui, ça m'a fait bizarre. Ouais, c'est vrai, ça m'a fait bizarre. Oui, mais après tout, une guerre sanitaire, c'est peut-être une autre guerre. Là, je ne me sens pas dans mon élément, je ne sais pas. Mais j'ai mon masque, hein, quand même.
Oui, vous l'avez. Ouais. Ouais. Vous l'avez, puis gel, enfin, tout.
Oui, hein, ouais, bien sûr.
Merci beaucoup, Dorothée Oliéric, d'être venue nous raconter votre document en avant-première, Nuit d'enfer, demain.
Avec Vincent Fishman, Alexis Fischer au Mali et Oktay Senghoul au montage.
Merci beaucoup pour eux, parce que le sujet se monte encore à l'heure qu'il est et il sera prêt évidemment demain à 13h15 sur France 2. Merci. Ah, si tous les profs pouvaient être aussi cool qu'Alex Good, cahier de vacances Lumni, jeu Lumni, un été apprenant grâce à lui. Alex Good dans 2 minutes sur Culture Média.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Peut-être bien que quand ils repenseront, dans quelques années, à cette année 2020 où ils ont été confinés 2 mois et demi durant, en mars-avril, les enfants, les adolescents se souviendront qu'à la télé, leur prof s'appelait Alex.
Ouais, c'est pas moi le prof, hein. Il y a des vrais profs.
Oui,
moi,
enfin quand même, c'est ce que c'est. Bonjour Alex Good.
Bonjour.
La maison Lumni, les cours Lumni, un peu partout sur France Télévisions, en plein confinement, on va commencer par là. Comment vous êtes-vous retrouvé à présenter ces émissions destinées aux enfants, aux préadolescents, aux prépubères, comment dites-vous ?
Ouais, maintenant c'est plus large, c'est parce que maintenant tout le monde regarde. J'ai reçu encore il y a 2 jours un message d'une dame de 82 ans qui nous remerciait.
Ah,
c'est devenu très large maintenant, les gens qui regardent l'émission. Mais c'est vrai que.
Au départ,
c'est le hasard. C'est Amel Kogar, la boss de Lumni, qui est la branche éducative d'audiovisuel public, avec Arte, France Télévisions, l'INA et tout ça, qui se dit on va faire quelque chose sur Internet avec les enfants, avec le ministère. Elle approche Cédric Clèche.
On est quand là ?
Là, on est le 13 mars.
Oui, donc on va être confiné.
On ne sait pas encore, mais on va être confiné le 17. On va nous le dire 2 jours après. Demain, on est confiné. Mais voilà, donc le 13 mars, on se dit on va faire un truc sur Internet, sur le site de lumni.fr. Cédric Clèche, qui est le boss de Média TV et la boîte de prod, qui est chargé de faire ça au début, travaillait avec moi. Il me connaissait très bien. Il sait que j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses pour la jeunesse, des missions. Je travaillais encore jeune de Mickey, ça fait 24 ans. Je connais bien les enfants. Je fais beaucoup de choses pour Disney et tout ça.
ça et beaucoup d'émissions de télé jeunesse. Et il me dit, est-ce que ça te branche? Je dis, bah, écoute, allons-y, essayons de faire un truc. Au début, ça devait être que pour Internet. Et puis après, Amel en parle à Takis Candilis, à Delphine Arnaud et à Frédéric Lacroix, qui est le boss de France TV Studio, qui va devenir coproducteur après de l'émission. Et en fait, on annonce le confinement le 15, je crois. Le 17, on est confiné. Et le 17, on se dit, bon, bah, finalement, c'est plus sur Internet. Takis et Delphine Arnaud prennent la décision de mettre ça à l'antenne et de faire les cours et tout ça. On bosse comme des fous avec le ministère, avec Monsieur Blanquer, ministère de l'Éducation nationale et toute son équipe.
Donc vous avez directement bossé avec lui, il était là ?
Ah oui, directement. Bah, on l'avait, moi je l'avais en texto ou en télétravail.
Vous avez avec le 06 l'équipe.
Oui,
de Jean-Michel Blanquer.
De Monsieur Blanquer.
Ça arrive à d'autres, Marc.
Ça arrive à d'autres. Ouais. Et c'est vrai que ça a été, en une semaine de télétravail intensif, on a créé tout ça, l'émission, les cours, tout a été fait en une semaine. C'est au total, depuis que ça existe cette affaire, 200 personnes qui bossent comme des fous. Il y a eu plus de 80 professeurs apportés par justement le ministère de l'Éducation nationale.
C'est-à-dire c'est le ministère qui a choisi les professeurs, oui, qu'elle a intervenu dans l'émission.
Exactement.
Pourquoi ?
Bah parce que bah c'était logique. On s'est tous embarqués dans une mission de service public où c'était de dire bah, qui est le premier intervenant, qui sait, qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants, quel programme, de quoi il faut qu'on parle. C'est le ministère.
Donc, pour le coup, ce sont des profs qui n'ont pas fait cours pour leurs propres élèves.
Ah bah si, c'était
ça. Ils ont cumulé.
Ah mais c'est ça la difficulté, c'est qu'ils ont bossé comme des damnés, comme nous tous, ceci dit, parce qu'on était vraiment ce qu'on appelle au cul du camion, hein, pour être clair, puisqu'en fait, on a tourné le 22 mars pour une mise à l'antenne le 23 mars et qu'après, on était comme ça, en flux tendu, tous les jours à faire 7 heures de programme, quand même.
Alors, c'était une mission noble, quand même, Alex Good, pour cette série d'émissions. Vous avez ressenti une certaine responsabilité ou alors vous n'avez pas eu le temps et vous avez plongé?
Bah, en fait, on a tous senti une espèce de responsabilité, mais c'est surtout parce que tout le monde nous dit « Ah, vous devez être content, vous devez être content du succès du truc ». C'est impossible d'être content quand tu as des centaines de milliers de morts dans le monde, que c'est catastrophique, que là encore aux États-Unis c'est l'enfer. Donc on n'est pas vraiment content. En revanche, tu as un vrai sentiment de fierté d'avoir réussi à faire tout ça. Tu vois, même les profs, c'est très drôle. Les profs,
moi, je dis si tu veux, on se tutoie.
Oui, non mais... Excusez-moi, si vous voulez.
Non, mais
c'est vrai que il y a un vrai... les profs, ils n'avaient jamais fait de télé.
Ouais.
Et on s'est tous retrouvés à bosser tous ensemble, main dans la main, masque sur masque, mais distance physique respectée, à bosser comme des fous. Mais c'est vrai que c'est un vrai sentiment de fierté. Voilà, on a fait une vraie mission de service public. Et c'est d'ailleurs ce qui se voit quand les gens, je parle encore avec les profs tous les jours, qui d'un seul coup sont devenus aussi des stars des réseaux sociaux, avoir des messages, des élèves et tout. C'est vraiment ça, c'est un sentiment de fierté de se dire on a été utile à beaucoup de gens, parce que pas que les enfants, tu vois, les parents, c'était utile, les grands-parents qui découvrent des trucs.
Ça, les parents, je suis sûr qu'ils vont vous serrer quand ce sera possible.
Non, mais c'est vrai,
parce que faire les cours à ses propres enfants, ça a été quelque chose pendant cet été. Donc,
Je pense que il y a au moins dans ce drame plusieurs choses positives qui vont sortir de ça, c'est que je pense que l'image et du corps soignant et du corps professoral, où on se dit quand même c'est pas si facile, c'est que nous on en a un ou deux à la maison et c'est l'enfer, eux ils en ont 30 tous les jours, comment font-ils?
Ouais, j'ai l'impression que le personnel soignant a davantage, pour de bonnes raisons, été mis en avant. Pour les profs, ça tarde un peu quand même. Enfin, bon.
Oui, mais je pense que quand même voilà, ils ont tous bossé comme des fous. Nous les nôtres, ils faisaient leurs cours sur internet, après ils venaient avec nous travailler, ils préparaient les cours des émissions, enfin c'est vraiment un boulot de fou. Hein.
Alors plus ça va, plus ça continue cette histoire. On va parler de l'été dans un moment. Simplement Alex Good, avec tout ça, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir aussi contribué peut-être à sauver la peau de France 4?
Alors, ça c'est délicat, on me pose toujours la question.
Désolé. Hein.
Non, mais c'est pas un problème. Non, mais c'est vrai que là, France 4 a eu une vraie utilité concrète, c'est qu'en termes d'antenne, au moins il y avait une antenne où on pouvait mettre les cours toute la journée pour les enfants. Donc c'est vrai qu'on est passé d'une chaîne jeunesse à une chaîne jeunesse-éducation, et qui a prouvé son utilité. Et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a d'un seul coup un débat de se dire, attends, ça devait s'arrêter le 9 août, est-ce que finalement ça va continuer ou pas?
Bon, on le saura dans quelques jours, a dit
la ministre hier, Roselyne Bachelot.
Mais vous avez des indices, vous avez un sentiment?
Bah nous, on fait comme si ça continuait, de toute façon.
Oui, mais qu'est-ce qui va se passer selon vous? Ça va continuer, non?
Oui, selon moi, ça va continuer. En tout cas, je trouve que ça fait sens. Voilà, après, c'est pas moi qui décide, hein, c'est le gouvernement. Donc, mais je pense que, je pense qu'en tout cas, on est pas mal parti pour que, quoi qu'il arrive, l'UMNI continue sous une forme ou une autre, que ce soit sur France 4, même si France 4 venait à disparaître. Toute cette branche éducation, l'UMNI.fr existera toujours, OCU existera toujours aussi, voilà.
Et puisque la consigne, c'est que l'été soit apprenant, vous avez enchaîné avec les cahiers de vacances Lumni, avec le jeu Lumni, on les ouvre avec vous dans 2 minutes. Alex Good.
Pas de soucis.
Pardon ?
Pas de soucis.
Ah, pas de soucis, bah oui, Alex Good est avec nous dans Culture Média. Belle matinée à vous.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
et les cahiers de vacances Lumni et le jeu Lumni. France Télévisions creuse le sillon d'une télé apprenante testée pendant le confinement et qui a cartonné. Alex Goutz a vraiment cartonné. Au-delà de tout ce que vous auriez pu imaginer.
Bien sûr, on n'imaginait pas du tout que ce serait comme ça. Après, les cours, au fur et à mesure, ça a baissé. Parce que techniquement, les enfants sont peut-être un peu lassés. Et puis aussi, c'est devenu très ciblé. C'est-à-dire qu'au début, les cours étaient un peu généralistes. Et puis après, on a fait par demi-heure par classe. Et donc forcément, mécaniquement, ça a baissé. Oui. Parce qu'on s'adresse à un moment donné qu'à des cinquièmes. Donc ça a baissé mécaniquement. En revanche, la Maison Lumni, elle, n'a cessé de monter, ne cesse encore de monter. Même quand les enfants étaient à l'école sur les deux dernières semaines, là, on faisait des meilleurs scores qu'avant, paradoxalement. Mais c'est parce qu'en fait, il n'y avait plus de dessin animé ailleurs. Donc la Maison Lumni, qui est devenue un espèce de truc vraiment d'écoute conjointe, où les parents, les grands-parents m'écrivent tous les jours en me disant « c'est génial, on apprend plein de trucs, on est content de voir les enfants ». Donc il s'est vraiment créé quelque chose avec ça. Et les cahiers de vacances ne sont qu'une Maison Lumni revisitée où on fonctionne par thème. Voilà, la nouveauté de cet été, c'est le jeu qu'on fait sur France 4, le jeu Lumni, tous les jours à 13h30, qui s'adresse aux enfants du CP, au CM2, voilà, avec des questions dans cette gamme d'âge-là. Mais voilà.
Alors on va écouter à quoi ça ressemble un petit peu. Honnêtement, je ne sais pas si c'est les cahiers de vacances Lumni ou le jeu Lumni qu'on va écouter. Vous allez me dire. Ça commence par bonjour Luz.
Bonjour Luz.
Bonjour.
Alors toi, tu as 10 ans, tu rentres en CM2 et tu as vraiment la tête dans les étoiles. Mais c'est un petit peu à cause du travail de Nathalie
ça,
et de Régis.
Le jeu ou le...
Non, c'est la Maison Lumni. Parce qu'en fait, dans les deux, on reçoit des enfants. C'est-à-dire que dans la Maison Lumni, on a un enfant en fil rouge, ou les cahiers de vacances. On a un enfant en fil rouge qui a servi de notre émission. Et dans le jeu, ce sont deux enfants qui jouent. C'est la parole aux enfants, voilà, où ils apprennent des choses avec nous. Et on a des profs dans toutes les émissions.
Vous vouliez être cosmonaute, alors, parce que je ne sais pas si vous l'avez entendu, là. Vous l'avez dit, là, dans l'extrait, avant qu'on me parle
non,
dessus.
C'est vrai que, alors,
vous vouliez être cosmonaute dans la vie, Alex Goud.
Pas du tout au début, mais en fait, j'ai eu la chance d'aller visiter le siège de la NASA en Floride. Et c'est vrai que là, je me suis dit, oulala, j'espère que mon fils sera cosmonaute, j'ai envie d'aller dans l'espace. Voilà, et en plus, c'est bien, je pense qu'on va essayer de prendre soin un peu plus de notre planète maintenant, avec tout ce qui s'est passé là.
Et puis, je ne parierai pas, et vous ?
Voilà, si, quand même.
Allez. Vous croyez que ça va changer les choses?
Oui, je pense quand même que ça va changer les choses. J'espère. Mais dans tous les domaines, d'ailleurs. Voilà, je pense que ça va quand même nous faire réfléchir. Et c'est loin d'être fini, encore une fois.
C'est loin d'être fini, oui.
Donc, je pense qu'on essaiera de tirer les conclusions.
Alors là, je vais être cynique deux secondes.
Oui.
Deux secondes, pas davantage.
Allez-y, vous connaissez. Allez-y, Pascal, aucun problème.
Vous avez presque intérêt à ce qu'il y ait un reconfinement.
Non, je ne pense pas. Non, je vous rassure.
Ah, je vous ai prévenu. Hein.
Non, c'est très cynique. Non, j'espère qu'on va continuer à bien s'en sortir. Comme on s'en sort quand même à peu près correctement, malgré tous les drames qu'il y a eu. Quand on voit la situation dans d'autres pays, voilà, aux États-Unis, là, en ce moment, ça devient vraiment, vraiment, mais alors vraiment dramatique. Et effectivement, eux devraient faire un confinement, mais ils n'ont jamais fait un vrai confinement. C'est ça leur erreur, d'ailleurs. C'est qu'ils n'ont jamais fait un vrai confinement. Et on voit les pays qui ont hésité, où ça commence à devenir un peu problématique.
Alors, puisque vous évoquez les États-Unis, j'imagine que, voilà, à travers toutes ces émissions, vous adressez aux enfants, aux adolescents, il y a un être qui vous manque particulièrement ?
Ah bah oui, c'est mon fils, évidemment. Oui, bah, c'est vrai qu'il est aux États-Unis.
Quel âge a-t-il ?
Il a 5 ans, là. Il a 5 ans. Alors, moi, je suis rentré quelques jours avant qu'on décide de faire l'émission. Donc, je l'ai vu, moi, tout début mars, j'y étais encore. Et parce que j'essaie d'y aller tous les mois ou que lui vienne tous les mois. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais là, du coup, c'est effectivement, ça fait 4 mois que je ne l'ai pas vu. Alors, je le vois tous les jours en vidéo. Hein, et lui me voit tous les jours parce que je lui envoie les émissions. Mais c'est... Non, c'est très problématique. Et normalement, je dois y aller là, d'ici 15 jours, une fois qu'on fait une petite pause de tournage. Mais voilà, je ne sais pas ce qui va se passer aux États-Unis. Là, franchement, ça devient très, très compliqué.
Oui, vous avez évidemment des informations directes.
Tous les jours.
On est très informés, on sait que c'est une catastrophe. Mais jusqu'à quel point ?
Au point que c'est... les courbes, ils sont vraiment... Ils n'ont jamais baissé la courbe, contrairement à nous, même juste du cas d'infection, pas du cas de décès. Et là, la courbe de décès est en train de prendre une vitesse... Ça va être, enfin, c'est vraiment dramatique.
Mmh. Et sauf indiscrétion, que fait votre fils aux États-Unis ?
Il a pas l'école. Comme nous, l'école était interrompue. Après, ils sont revenus dans un système de garde un peu hyper safe, hyper protégé. Mais,
non, mais la question, c'était pourquoi est-il là-bas ?
Ah, pourquoi il est là-bas ? Parce que j'ai divorcé, comme beaucoup de couples. Ça arrive. Et que mon ex-mari est toujours là-bas. que nous avons une garde partagée à 10 000 km, c'est un concept, mais qui se passait très bien jusqu'à ce qu'il y ait cette histoire-là. Donc là, ça se passe très bien aussi. On est en train de voir ce qu'on va faire. Est-ce que je vais ramener quelques semaines Elliot en France, le temps que ça se calme?
C'est ce que vous aimeriez faire?
Oui, c'est ce qu'on est parti pour faire là pour l'instant.
Il y a débat ou...
Non, non, il n'y a aucun débat. Non, non, on s'entend très très bien. Mais c'est juste, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais pouvoir y aller, même tout simplement? Voilà, on ne sait pas. C'est vraiment, je vous le dis, là-bas, c'est vraiment dramatique et on va l'apprendre dans les jours qui viennent de plus en plus.
Mais d'abord, il faut bosser, Alex Goudin.
Ouais, oui, bah.
Là, vous tournez vraiment.
Oui, bon, c'est un petit rythme. C'est un petit rythme. je tourne 7 jours sur 7 depuis 4 mois. Donc voilà, mais je ne vais pas me plaindre. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont pas la chance de travailler. Donc voilà, moi, j'ai cette chance-là. Là, c'est vrai qu'on travaille comme des fous tous, mais il n'y a pas que moi, encore une fois. Il y a 80 professeurs, 120 personnes dans la technique qui bossent, qui ont pris des risques au début vraiment insensés. Voilà.
Oui, le côté émission placée sous l'égide ou en partenariat avec l'éducation nationale, oui. ça vous gêne jamais ce côté un peu officiel, faut le dire?
Bah pas du tout, sans eux ça aurait pas été possible.
Pourquoi?
Parce que sans eux on n'avait pas les professeurs, on n'avait pas les
ça.
Programmes.
Juste pour l'autorisation, enfin ils auraient pu vous laisser un petit peu. C'est eux qui décident du programme, non?
Ah non, mais ils nous laissent. Ils n'ont pas la main tous les jours. Il y a Marie, que je salue au ministère, qui regarde le programme tous les jours et qui nous suit et qui nous dit c'est super, c'est travailler comme ça, machin et tout. Non, mais c'est vraiment, ça se passe super bien. Ça ne pouvait pas mieux se passer.
Alex Good, vous voyez faire quoi quand vous serez grand?
Je suis déjà assez vieux maintenant, hein. Pascal, je ne veux pas vous... voilà, peut-être que j'ai l'air encore un peu jeune, c'est la magie, je ne sais pas, de mes gènes, merci maman. Mais écoute, pour l'instant, en fait, le problème, c'est que là, bien malin, qui peut
bien
dire
malin.
Ce qui va se passer. Mm. Voilà, donc pour l'instant, franchement, c'est au jour le jour. Moi, tous mes spectacles de théâtre se sont arrêtés. Je ne sais pas ce qui va se passer pour mes comédiens, mes comédiennes. Voilà, tous les jours, on pense les uns aux autres en disant, mon Dieu, mais où est-ce qu'on va? Donc je me concentre sur ce que j'ai à faire là, sur ma famille, mes amis, jouant à la maison qui passe ce soir sur France 3, les quais de vacances le matin sur France 2, le jeu Lumi sur France 4, voilà, et je me concentre là-dessus et j'essaye de pas trop penser, sinon ça fait un peu mal au crâne quand même de deviner ce qui va se passer un peu plus tard.
Pour terminer, je vais la jouer petit bras, hein, comme il y a tellement de déclinaisons et programmations sur toutes les chaînes des cahiers de vacances et du jeu Lumni. Je vais vous laisser rappeler les rendez-vous, comme ça j'aurai
pas de souci. Alors il n'y a aucun problème, je peux le faire, c'est facile. Donc le matin, les cahiers de vacances de la maison Lumni, c'est à 9h55 sur France 2 et à 11h rediffusé sur France 4. Voilà. Ensuite, il y a le jeu Lumni sur France 4 à 13h30. Et tous les soirs, il y a Jouant à la maison à 20h40 en semaine sur France 3 et à 20h le samedi et le dimanche, parce qu'il y en a deux le samedi et le dimanche.
Jusqu'à quand?
Pour l'instant, jusqu'à la fin de l'été.
Ouais.
Et puis après, on verra ce qui se passe.
Après, on verra bien. Vous êtes donc très occupé et c'est tant mieux. Merci beaucoup, Alex,
merci à vous
d'être passé
surtout.
Par Culture Média. Culture Média, c'est pas compliqué à dire pourtant. Et puis, bon courage à vous pour l'été.
Merci, vous aussi. Bon courage, j'ai travaillé,
ouais,
vous aussi.
Merci, ouais, il paraît. Ouais. Allez, bonne journée.
Au revoir.